Catéo Radio présente à haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson.
Chapitre 3. La vieille Madame Bran et ma belle étaient assises à une fenêtre de la Nouvelle Amirauté dans Trafalgar Square pour assister au grand meeting où Olivier devait prononcer son discours sur le 50e anniversaire du vote de la loi des pauvres. Depuis longtemps déjà, presque dès l'aube de cette brillante matinée de juin, la foule avait commencé à s'assembler autour de la statue de Braithwaite. Cet homme d'État, mort depuis 15 ans, était représenté dans l'attitude qui lui avait été ordinaire, le bras étendu, la tête levée et l'un de ses pieds légèrement avancé. Ce jour-là, en outre, on avait revêtu sa statue de tous les insignes maçonniques qu'il avait portés de son vivant. La vieille Madame Bran était plus en train que d'habitude et considérait avec curiosité les masses énormes venues de toutes parts pour entendre parler son fils. Une plateforme avait été dressée tout autour de la statue de bronze, de telle façon que Braithwaite, lui-même, sembla être l'un des orateurs. La place entière, au-dessous, était pavée de têtes et retentissait des murmures de centaines de milliers de voix que dominait par instant l'éclat puissant des cuivres et des tambours lorsque passaient les sociétés de bienfaisance et les guildes démocratiques, chacune précédée de sa bannière, et convergeant vers le vaste espace qui leur était réservé au pied de l'estrade. Pas une fenêtre non plus qui ne fût encombrée de visages, sans compter qu'on avait installé de vastes tribunes, pour les auditeurs privilégiés, sur toute la longueur des façades de la Galerie Nationale et de Saint-Martin. La vieille colonne du square, avec ses lions, avait depuis longtemps disparu. Nelson avait été trouvé compromettant pour l'entente cordiale et les lions, décidément, avaient paru d'un type trop éloigné de l'art nouveau. À leur place s'étendait maintenant une large avenue conduisant à la Galerie Nationale. Enfin, par-dessus les toits, de longues frises de têtes se dessinaient, sur le bleu uni du ciel. Lorsque les horloges sonnèrent l'heure convenue, deux figures surgirent de derrière la statue, s'avancèrent et au même instant, les murmures des conversations se changèrent en unanime viva. On vit arriver d'abord le vieux lord Pebbenton, un vieillard admirablement droit et solide sous ses cheveux blancs. Son père était un de ceux qui, 70 ans auparavant, avait le plus travaillé à détruire la Chambre des lords dont il était membre, et son fils avait dignement continué son œuvre. Il était à présent membre du gouvernement, et c'était lui qui devait présider la cérémonie du jour. Derrière lui venait Olivier, tête nue. Même à la distance où elles étaient de lui, sa mère et sa femme purent voir ses mouvements agiles et le sourire à la fois modeste et assuré de ses lèvres lorsque son nom émergea de la tempête des cris que poussait la foule. Puis Lord Pemberton leva la main, fit un signal, et aussitôt les voix s'arrêtèrent sous un soudain roulement de tambour. Après quoi, toutes les musiques entonnèrent l'hymne maçonnique. C'était comme si la voix d'un géant eût chanté l'ample mélodie. L'hymne avait été composé 10 ans auparavant, et la nation entière désormais le savait par cœur. La vieille Madame Bran souleva cependant jusqu'à ses yeux le papier imprimé qui en contenait le texte et lut ces mots, le début de l'hymne. Seigneur qui habite la terre et les mers, elle lut les vers suivants, composés avec un heureux mélange de zèle et d'adresse pour l'exaltation de l'idée humanitaire. L'hymne entier avait une allure religieuse. Un chrétien même, à la condition de ne pas trop réfléchir, aurait pu le chanter sans scrupule. Et pourtant sa signification était assez claire. C'était la substitution de l'homme à Dieu comme objet du culte. L'auteur y avait introduit jusqu'à des paroles du Christ, disant par exemple que le royaume de Dieu résidait dans le cœur de l'homme et que la plus grande de toutes les grâces était la charité. La vieille dame leva les yeux sur ma belle et vit que celle-ci chantait de toute son âme, le regard amoureusement fixé sur la grave et noble figure de son mari à 100 mètres de là. Et la mère d'Olivier, elle-même, se mit à remuer les lèvres, entraînée par la force du cœur prodigieux qui vibrait autour d'elle. Lorsque les dernières notes de l'hymne s'éteignirent, Olivier s'avança au premier plan de l'estrade et commença son discours. Mais tout à coup, comme la vieille Madame Brandt essayait d'entendre les paroles de son fils, une exclamation de Mabel la fit tressaillir. Qu'était-ce donc ? Il y eut un craquement brusque et la figure gesticulante d'Olivier chancela sur l'estrade, faillit tomber. Le vieux Lord Pebbenton se releva précipitamment du fauteuil où il était assis et au même instant, une commotion violente agita et souleva un point de la foule. Immédiatement, voisin de l'espace clos où étaient massées les musiques, tout juste vis-à-vis du devant de l'estrade. Madame Brand, étonnée, épouvantée, se releva, étreignit machinalement le rebord de la fenêtre, pendant que sa belle-fille lui cria à l'oreille quelques mots qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Un grand rugissement remplit tout le square. Les têtes se tournaient de tous côtés, comme des épis sous une tempête. Et puis on vit Olivier s'avancer de nouveau, faisant de la main un geste, comme pour désigner quelque chose, et criant des mots que sa mère n'entendait pas, et la vieille dame se laissa retomber sur sa chaise. « Ma chérie, qu'est-ce que c'est donc ?» sanglota-t'elle. Mais Mabel restait debout, continuait à tenir les yeux fixés sur son mari. Et de nouveau, un murmure rapide de conversation et de cris bourdonnait dans la foule. Ce soir-là, chez lui, Olivier donna aux deux dames une explication complète de l'affaire, commodément installé dans son fauteuil, avec le bras droit bandé et maintenu par une écharpe. Sa mère et sa femme n'avaient point pu l'approcher au moment de la catastrophe. Mais un messager était venu leur apporter la nouvelle que le jeune orateur n'était blessé que légèrement et que les médecins étaient d'accord pour n'éprouver aucune inquiétude. « Oui, c'était un catholique », expliquait Olivier. Et sans doute son attentat était prémédité, car on a trouvé son revolver chargé. Mais cette fois, ajouta-t-il, en souriant à l'adresse de Mabel, aucun prêtre de sa religion n'a eu le temps d'intervenir auprès de lui. En effet, Mabel avait déjà lu sur les placards télégraphiques le sort du misérable. Il a été tué, étranglé et foulé aux pieds sur le champ, poursuivit Olivier. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le protéger. Vous avez dû voir comme je m'y suis employée, mais au fait, peut-être vaut-il mieux pour lui qu'il ait eu moins longtemps à souffrir. Mabel se pencha vers son mari. Olivier, dit-elle. Je sais que ce que je vais dire va te paraître bien étrange de ma part, mais j'aurais souhaité qu'on ne le tuât point. Olivier lui sourit amoureusement. Il connaissait la charmante tendresse de son cœur. Qu'est-ce que tu étais en train de dire quand il a tiré ? Reprit Mabel.
Oh, rien que de très banal. Je disais que Braithwaite avait fait plus pour le monde par un seul discours que Jésus et tous les saints réunis.
Le jeune homme s'aperçut à ce moment que les aiguilles à tricoter de sa mère s'arrêtèrent de travailler pour une seconde, mais aussitôt elles se remirent en mouvement. « Et comment a-t-on su que c'était un catholique ?» demanda encore la jeune femme.
« Il avait un rosaire sur lui, et avant de mourir, il a encore eu le temps d'invoquer son Christ. »
« Et l'on ne sait rien d'autre à son sujet ?»«
Absolument rien. Un homme fort bien vêtu, mais on a pu encore découvrir son nom. »
Olivier se laissa retomber dans le fond du fauteuil et ferma les yeux. Son bras lui faisait grand mal, avec les battements qu'il y sentait à tout instant. Mais il n'en était pas moins très heureux, au fond du cœur. Il se réjouissait d'avoir été blessé par un fanatique et d'avoir à souffrir pour une telle cause. Il sentait que la sympathie de la nation entière l'accompagnait. Cet attentat avait été une aubaine merveilleuse pour les communistes. Leur orateur avait été assailli pendant l'accomplissement de son devoir. Le profit était incalculable pour eux et la perte non moins énorme pour leurs adversaires,
qui se vantait volontiers d'être seul à connaître la persécution. Bientôt, la vieille Madame Brand se leva et sortit, toujours sans dire un mot. Ma belle se tourna vers son mari et lui posa une main sur les genoux. « Est-ce que tu es trop fatigué pour causer, mon chéri ?» Il ouvrit les yeux. « Mais non, dit-il, pas du tout. Qu'y a-t-il »« Quelles conséquences crois-tu que puisse produire toute cette affaire ?»«
Quelles conséquences ?»«
Oh, rien d'excellent !»« Il était temps que quelque chose arrivât, vois-tu, ma chérie. Il y avait des moments où je me sentais bien découragée. Il me semblait que nous perdions tout notre entrain et que les anciens Tories avaient un peu raison quand ils prophétisaient que le communisme finirait par faire faillite.
Mais après ceci...
Eh bien ?
Eh bien, nous avons montré que nous pouvions verser notre sang pour la cause, nous aussi. Je ne veux pas exagérer, sans doute. Il ne s'agit que d'une égratignure. Mais l'attentat a été si délibéré et toute l'affaire a pris une allure si dramatique... Le pauvre diable n'aurait pas pu choisir, à son point de vue, un plus mauvais moment. Jamais le peuple n'oubliera cette journée.
Les yeux de ma belle étaient illuminés de plaisir. « Mon cher trésor, dit-elle, est-ce que tu souffres ? » ?»«
Un peu, mais qu'importe. Bah, si seulement cette infernale affaire d'Orient pouvait finir. »
Il avait conscience d'être fiévreux et irritable et faisait grand effort pour retrouver son sang-froid.
« Ah, ma chérie, reprit-il, si seulement les hommes voulaient comprendre, s'ils voulaient reconnaître quelle chose glorieuse c'est, cet idéal que nous leur proposons, l'humanité, la vie, la vérité, enfin, et la guérison de l'ancienne folie.
Mais écoute, s'interrompit-il, en revenant à un sujet qu'il avait d'abord oublié, est-ce que tout à l'heure, tu n'as pas remarqué quelque chose quand j'ai répété ce que j'avais dit au sujet de Jésus-Christ ?
« Oui, j'ai vu que ta mère s'était arrêtée de tricoter pour un moment. »«
Ma belle, ne crois-tu pas qu'elle soit en train de retomber ?»«
Oh, vois-tu, elle vieillit, » répondit légèrement la jeune femme. « Il est bien naturel qu'elle regarde un peu en arrière. »«
Mais cependant, tu ne penses pas que ma mère, ce serait trop affreux ?»
Elle secoua la tête. « Non, non, mon chéri, tu es excitée et fatiguée. » Je t'assure que ce n'est rien qu'un peu de sentiment. Mais tout de même, Olivier, à ta place, je n'aurais point parlé ainsi devant elle.
Je n'ai rien dit qu'elle n'entende dire partout à présent.
Je ne le crois pas. Rappelle-toi qu'elle ne sort presque jamais. Et puis, elle a horreur de l'entendre. Après tout, il ne faut pas oublier qu'elle a été élevée en catholique.
Olivier se rejeta au fond du fauteuil et considéra rêveusement la fenêtre devant lui.
« N'est-ce pas étonnant, murmura-t-il, la manière dont persistent ces maudites suggestions. Voilà une femme intelligente et assez instruite qui n'a pas réussi à les faire sortir de sa tête, même après 50 ans. En tout cas, veille bien sur elle, n'est-ce pas ?»
Ma belle se rappela ce que son mari lui avait demandé et pendant quelques jours fit de son mieux pour observer la vieille dame. Mais elle n'aperçut rien qui pût l'alarmer. Madame Brand, par instant, était bien un peu silencieuse, mais elle continuait, comme d'habitude, à s'occuper de ses petites affaires. Quelquefois, elle demandait à la jeune femme de lui faire une lecture et elle écoutait, sans aucune trace de déplaisir, tout ce qu'il plaisait à ma belle de lui lire. Tous les jours, elle dirigeait le travail de la cuisine, tâchait à varier les menus et s'intéressait passionnément à tout ce qui concernait son fils. Ce fut elle qui, de ses mains, prépara sa malle lorsqu'il eut à partir précipitamment pour Paris. Et elle lui dit encore adieu, par la fenêtre, lorsqu'il descendit le petit escalier pour se rendre à la station. Ce voyage, d'après ce qu'il croyait, devait durer 3 jours. Le soir du 2e jour, cependant, la vieille dame se sentit malade. Et ma belle, qui était accourue dans sa chambre, toute alarmée, la trouva très rouge, s'agitant dans son fauteuil.
Ce n'est rien, ma chérie, lui dit Madame Brandt, d'une voix tremblante. Mais Mabel voulut absolument la mettre au lit, après quoi elle envoya chercher le médecin et s'assit auprès d'elle. C'est le cœur qui est atteint, dit le médecin son examen fini. Elle peut mourir d'une minute à l'autre, ou bien elle peut vivre encore 10 ans. Croyez-vous que je doive télégraphier à mon mari ? Il réfléchit et fit de la main un signe négatif. Encore une fois, tout est possible, mais mon sentiment est qu'il n'y a point d'urgence. Puis il ajouta quelques mots pour expliquer la manière de se servir de l'injecteur d'oxygène et prit congé. La malade reposait tranquillement dans son lit lorsque Mabel remonta près d'elle. Elle lui tendit sa petite main ridée. « Eh bien, ma chérie, demanda-t-elle. Ce n'est rien qu'un peu de faiblesse, mère. Il faut que vous restiez tranquille et ne vous occupiez de rien. Voulez-vous que je vous lise quelque chose ? Non, ma chérie. Je vais sommeiller un peu. » Dans la conception que se faisait Mabel de ses devoirs, n'entrait point l'idée d'informer la malade du danger qui la menaçait. Car, suivant la croyance de la jeune femme, il n'existait point de faute passée à réparer ni de jugement à affronter à l'heure de la mort. La mort était une fin et non pas un commencement. Et ainsi, Mabel, après avoir vu sa belle-mère s'assoupir doucement, redescendit pour travailler et rêver dans son petit salon. Le lendemain matin, M. Phillips arriva comme à l'ordinaire. Mabel venait de sortir de la chambre de Mme Brandt et le secrétaire lui demanda des nouvelles de celle-ci. Elle va un peu mieux, je crois, dit Mabel. Il faut qu'elle reste bien tranquille toute la journée. Le secrétaire s'inclina et se dirigea vers le bureau d'Olivier, où l'attendait une foule de lettres urgentes. Mais environ 2 heures après, comme Mabel remonta l'escalier, elle rencontra M. Phillips qui descendait. Il paraissait un peu agité et mal à son aise. Madame Brandt m'a fait appeler, dit-il. Elle désirait savoir si M. Olivier serait de retour aujourd'hui. Il va revenir ce soir, n'est-ce pas ? Il m'a dit qu'il serait ici pour le dîner, mais un peu tard. Il arrivera à la station vers 19h. Et il n'y a pas d'autres nouvelles ? De simples rumeurs, répondit le secrétaire. M. Brandt m'a téléphoné il y a quelques instants. Il semblait si ému que Mabel le regarda avec surprise. « Ce ne sont point des nouvelles d'Orient ? » demanda-t-elle. Il eut un petit sourire gêné. « Il faut que vous m'excusiez, madame, » dit-il. « Vous savez qu'il m'est défendu de rien dire. » Mabel ne fut nullement offensée, ayant pleine confiance en son mari, mais ce fut avec un battement de cœur qu'elle entra dans la chambre de la malade. Celle-ci également avait l'air fort excitée. Elle reposait dans son lit avec de grosses taches rouges sur ses joues pâles, et répondit à peine, d'un sourire, au salut de sa belle-fille. « Eh bien, avez-vous vu M. Phillips ?» demanda Mabel. La vieille Madame Brandt lui jeta un rapide coup d'œil inquiet, mais ne dit rien. « Ne vous agitez point, mère. Olivier va revenir ce soir. » La vieille dame eut un long soupir. « Ne vous mettez pas en peine à mon sujet, ma chérie. » répondit-elle. Je me sens tout à fait bien, maintenant. Il sera de retour pour le dîner, n'est-ce pas ? Oui, si l'aérien n'est pas en retard. Et maintenant, mère, êtes-vous prête pour le déjeuner ? Mabel passa un après-midi extrêmement inquiet. Elle avait l'impression que quelque chose de très grave était en train de se produire. Le secrétaire, qui avait déjeuné avec elle à midi, avait paru très préoccupé. Il lui avait dit qu'il serait absent tout le reste du jour, ayant reçu des instructions d'Olivier. À toutes les questions qu'elle lui avait faites sur les affaires d'Orient, il s'était borné à répondre que le Grand Congrès international de Paris n'avait encore rien décidé. Après quoi, il était parti précipitamment. La vieille Madame Brandt semblait dormir lorsque sa belle-fille remonta près d'elle, et la jeune femme ne voulut point la déranger. Elle n'avait pas non plus le courage de sortir ce jour-là.
de sorte qu'elle passa l'après-midi à se promener dans le jardin, toute pleine de réflexions, d'espérances et de craintes, jusqu'au moment où son ombre s'allongea sur le sentier, tandis que les toits voisins se teintaient de reflets roses du crépuscule. En rentrant au salon, elle prit le journal du soir. Mais la seule nouvelle qu'elle y trouva fut que le congrès de Paris était sur le point d'être clos. À 20h, toujours aucun signe d'Olivier. L'aérien de France devait être arrivé depuis une heure déjà. Et Mabel se demandait ce qui pouvait être survenu à son mari. Pourquoi ne venait-il pas, ou tout au moins, pourquoi ne le faisait-il pas savoir le motif de son retard ? Un instant, elle monta au premier étage, follement anxieuse elle-même, pour rassurer la vieille dame, et trouva de nouveau celle-ci très somnolente. « Olivier n'est pas encore venu, » dit-elle. « Sans doute il aura été retenu à Paris. » Le vieux visage sur l'oreiller bougea et murmura quelque chose. Mabel redescendit au salon et s'assit en face de l'appareil téléphonique. Elle considéra la petite bouche ronde, la rangée de boutons électriques portant des inscriptions. Elle avait presque envie de les toucher, l'un après l'autre, pour demander aux divers endroits si l'on ne savait rien de son mari. L'un de ces boutons communiquait avec le club d'Olivier, l'autre avec son bureau à Whitehall, un autre avec la maison de Phillips, etc. Mais elle hésita. S'encourageant à prendre patience, elle savait qu'Olivier n'aimait pas qu'elle intervînt dans ses occupations politiques. Elle se dit que, sûrement, il ne tarderait pas à se souvenir d'elle pour la délivrer de son anxiété. Tout à coup, l'un des timbres se mit à sonner bruyamment, celui-ci qui portait l'étiquette « Whitehall ». Elle pressa le bouton correspondant d'une main si tremblante que c'est à peine si elle put, ensuite, tenir le récepteur contre son oreille. « Qui est là ?» Son cœur bondit en reconnaissant la voix d'Olivier, toute mince et faible, à travers les lieux du fil. « C'est moi, ma belle !» répondit-elle à la question de son mari. « Je suis seule dans ton bureau. »« Oh, très bien. Me voici de retour. Tout est pour le mieux. Mais écoute, peux-tu bien m'entendre ?»« Oh oui !» Ce qu'on pouvait espérer de plus heureux s'est produit. La question d'Orient est décidément réglée. C'est Felsenburg qui a tout fait. Et maintenant, écoute encore ceci. Il m'est impossible de rentrer chez nous ce soir, mais dans 2 heures, le résultat du congrès va être proclamé solennellement au temple de Paul. Viens me rejoindre ici tout de suite. Il faut que tu assistes à la séance. Tu m'entends toujours bien ? Oh, très bien. Donc, viens tout de suite. Ce sera la plus grande chose de toute l'histoire du monde. Viens avant que la nouvelle se répande. Dans une demi-heure, toutes les rues seront infranchissables. Olivier ? Quoi ? Dis vite. Ta mère est malade. Puis-je la quitter ? Très malade ? Oh, pas de danger immédiat. Le médecin l'a vu. Il y eut un instant de silence. Viens malgré tout, reprit Olivier. Nous rentrerons ensemble cette nuit. Dis-lui que nous reviendrons assez tard. Bien. Oui, il faut absolument que tu sois là. Felsenburg y sera.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugh Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kto-radio.com et sur l'application KTO Radio.